Salut et bienvenue dans Ici Montferrand, le podcast du journal La Montagne consacré à l'actualité de l'ASM Clermont, avec à mes côtés trois représentants du service des sports de La Montagne, Arnaud Clergue, Christophe Buron et Vincent Balmiz. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Salut Greg.
Bonjour à tous.
Salut à toutes et tous, salut Greg.
Et cette question qui nous brûle les lèvres, bien sûr, après la qualification de l'ASM Clermont, est-ce que l'ASM peut le faire? Est-ce que l'ASM peut gagner la Challenge Cup? Je vais faire un tour de table, Vincent, oui non?
Pas sûr.
Arnaud?
Bah oui.
Christophe?
Oui mais...
Ok, facile, on va développer, très bien. Qu'est-ce qui te fait penser, toi, Vincent, que l'ASM ne peut pas forcément gagner la Coupe d'Europe? Mais avant de te poser la question, je te laisse réfléchir. Je rappelle juste que l'ASM s'est donc imposé en huitième de finale face aux Cheetahs, l'équipe sud-africaine, 27 à 22, qu'à 17 minutes de la fin, les Clermontois menaient 27 à 3, et qu'ils ont encaissé quand même bon nombre de points, 19 très exactement, dans les 17 dernières minutes. Ça faisait un gros tarif quand même pour les Clermontois. Tarif qui correspond aussi à l'entrée du banc Clermontois, on en parlera un tout petit peu. Est-ce que c'est cette fin de match contre les Cheetahs qui te laisse penser, Vincent, que les Clermontois ne peuvent pas gagner la Challenge Cup?
Ben, s'il n'y avait eu que cette fin de match, on aurait pu dire que c'était un accident de parcours, mais ça arrive souvent en fait que Clermont attaque bien ses matchs.
Christopher Rios a dit « depuis que je suis à Clermont, en fait, ça arrive ».
Bah c'est ça quoi, on a l'impression de souvent revoir les mêmes matchs, enfin les mêmes fins de match,
ouais.
Où Clermont joue à se faire peur et j'ai envie de croire que pour jouer un titre, notamment sur la scène européenne, vaut mieux tenir sur 80 minutes, sur la longueur.
Cette fin de match, on va tout de suite rentrer dans le vif du débat, est-ce qu'on peut l'expliquer par le manque de profondeur de banc de l'ASM?
Tout à fait, oui, c'est mon oui mais il concerne... Mes réserves concernent la profondeur des effectifs de ce groupe. Hein. On a bien vu que le banc n'a pas du tout apporté la fraîcheur qui était attendue à ce moment-là du match. Il faut dire qu'il a été précoce en plus, parce qu'à 27-3, c'est logique de faire du coaching. Et c'est vrai qu'en absence de 3-4 joueurs importants sur blessure actuellement, et ben c'est un peu moins qualitatif sur le banc et donc ça met un peu plus en exergue un effectif clermontois qui est peut-être pas taillé pour la haute mer encore cette saison, tout simplement.
Ça, de toute façon, on le dit depuis le début de la saison, que la profondeur d'effectif n'est pas assez suffisante à Clermont. On l'a dit je ne sais pas combien de fois dans ce podcast. Ouais, c'est vrai que ça peut poser problème, poser problème dans cette compétition. Mais moi, je suis en train de regarder le tableau de cette Challenge Cup. Si je regarde les adversaires probables de l'ASM lors des prochains matchs, il n'y a pas non plus un épouvantail.
On va en parler.
C'est pas quelque chose.
Déjà, il y en a un qui est plus probable, c'est l'Ulster.
Oui, c'est l'Ulster maintenant. Mais j'ai regardé contre Montpellier cet après-midi, c'est pas non plus des foot de guerre. Et moi, il n'y a pas une équipe qui me fait rêver dans ce qui reste ou ce qui peut rester encore.
Reste bien en face du micro. Première faute de Carno, c'était hier après-midi. bien joué. Juste, je voudrais qu'on parle, avant de parler du tableau hein, de cette Challenge Cup, parlons des remplaçants. Veriga et Bizibou, De Seigne, Zamalashvili, Giral, Jono, Gédrasia, Kraka. C'est pas complètement nul comme banc, loin de là.
Oui, mais ils n'ont pas apporté ce qu'ils devaient apporter. Paul Gédrasiak, on l'a vu, quand il est rentré, il n'a pas du tout été dans l'avancée. Bibi Bizibu, il a été un peu absent sur les zones de ruck, dans la zone de combat. Non, mais le banc, globalement, n'a pas apporté la même densité, la même prestation que le 15 titulaire qui avait plutôt fait une bonne prestation pendant une heure de jeu.
Il y a un exemple typique, hein, c'est Lucas De Seigne, qui est un bon joueur, un bon petit joueur, qui a un peu le même registre qu'un Alexandre Fischer, et qui a prouvé, hein, quand il est rentré, qu'il lui aussi était capable de ferrailler, mais pas avec la même efficacité, parce que c'est un garçon qui ne plaint pas son énergie, son activité. Il ne fait pas 110 kilos, il n'a pas les bras de Fischer, et on a vu la différence. Hein. Fischer, en 40 minutes, il a quand même cranté 3 ballons très très importants dans les zones de ruck et au sol, dans les bras des Irlandais.
Son retour fait du bien déjà.
Son retour a fait du bien. Ouais. Et c'est vrai que celui qui est rentré pour remplacer Lucas De Seigne, en l'occurrence, n'a pas eu la même efficacité dans ce registre-là, en tout cas.
Et notamment ces deux ballons grattés à la fin de la première mi-temps qui ont amené indirectement ou directement.
Quasiment directement,
les deux essais clairement.
Si on parle du banc et de la faiblesse du banc dans son entrée. Christopher Yost, lui aussi, en a parlé ou pas, mais en tout cas, il a laissé entendre qu'il allait avoir peut-être
il a éludé, ouais, il a éludé, mais après, bon, il ne faut pas tout jeter non plus. Bon, je pense que Raka, bon, il était absent depuis 15 jours, il l'a fait jouer 10 minutes, ça pas, voilà, y a pas...
Ça n'a pas prêté à conséquence.
Non, absolument pas. Jono a plutôt été bon dans le dynamisme qu'il a apporté, hein, un peu plus de vitesse, sans doute. Donc voilà, il y a quand même... Mais c'est globalement devant, alors que devant, il faisait plutôt un bon match.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est plutôt devant que ça a pêché.
Après, la chance de l'ASM dans cette compétition, c'est qu'elle ne sera pas soumise à la contrainte GIF. Et on peut penser quand même...
On l'a vu pas la semaine dernière déjà, exact.
On peut quand même penser que, ne serait-ce que du poste pour poste, quoi. À droite, il y a Slimani et Ojovan, ce n'est pas la même chose au niveau du poste de pilier. Enfin, poste par poste, Fainga et Fourcade, ça sera plus solide que Béré et Fourcade hier. Sur le papier, si tout le monde est là... L'effectif est quand même costaud pour jouer de la Challenge
oui,
Cup.
On peut imaginer, il y a Marcos Kremer qui était blessé là, on peut imaginer qu'il puisse reprendre peut-être...
A priori non. Fritzli et Marcos Kremer, il n'y aura aucun risque de prix avec eux, ça m'étonnerait qu'ils soient là. Fainga non plus.
Sur du plus long
terme. Ils peuvent retrouver Georges Morella, par contre.
On parle jusqu'à la fin de saison quand même, Christophe, hein. pas que du match de...
Oui, non, mais moi je parle de samedi. Hein. Ouais, okay. Je parle de samedi, hein. Après, c'est des joueurs qui vont évidemment en faire du bien quand ils vont revenir, hein, ouais. Que ce soit en top 14 ou en Challenge Cup. Hein. Après, comme disait Arnaud, le tableau final, bon, il n'y a pas les grands noms, hein. Il n'y a pas le Leinster, il n'y a pas Toulouse, évidemment.
Ça s'appelle la Champions Cup, ça.
Exactement. Donc... c'est possible, mais il faudra pas de, il faudra pas de, la marge d'erreur va être très mince, hein, et c'est vrai que ces fins de match sont un peu quand même très embêtantes, parce que voilà, ça a tourné du bon côté là, et on sait qu'à Clermont ça tourne parfois aussi du mauvais côté.
C'est un bon signe pour les Clermontois.
En Challenge Cup, oui.
Mais il faudra quand même se méfier de l'Ulster. Hein. Il y a des joueurs.
Oui, oui.
Alors, attends, avant de venir sur l'Ulster, bon. Je voudrais qu'on termine quand même sur le match des Cheetahs. Juste 27 à 3, donc avant les 17 dernières minutes, ça veut dire qu'il y a eu du bon quand même. Juste pour parler du moins bon en début de match, on va dire que au niveau des lignes arrières, on a fait beaucoup d'erreurs.
Ouais,
beaucoup
c'était
de...
brouillon.
Ouais.
C'était brouillon, il y a eu beaucoup de ballons tombés, beaucoup de précipitations dans les derniers gestes, à l'image de Joris Jurand qui a tombé un nombre incalculable de ballons. C'était un peu compliqué, ouais. Et ouais, il y a eu beaucoup de précipitations, beaucoup de fautes d'imprécision. Et c'est vrai que les lignes arrières n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ont produit les gros hier face aux Cheetahs.
Je le dis sans malice, parce que je me pose vraiment la question. Vous avez pensé quoi de la prestation de Joris Jurand hier? Pas terrible.
Largement insuffisant.
Ouais, ouais. Pas terrible, oui. C'est le moins qu'on puisse dire,
ouais. Ouais, okay. Donc, oui.
Mais ça n'a pas été le seul, attention.
Ouais. Non, bien sûr.
Je pense que... Ils ont tous fait des maladresses. Hein. J'ai revu le match. Il y a eu de ces ballons échappés, quand même incroyables. Hein. Newsom en a laissé tomber.
Pas bien en face du micro.
Newsom en a laissé tomber. Delgui, pareil.
Newsom n'a pas été hyper allé sur les ballons aériens en début de match, notamment.
J'ai pas ce souvenir.
Ouais, non,
ah ouais, ouais, d'accord. Ouais. Et puis, il y a une autre problématique. C'est que malheureusement, pour avoir revu ce match, il y en a un qui n'est plus sur la dynamique qui était la sienne il y a 2-3 mois, c'est Anthony Bello. Hein. Il n'a pas fait un bon match, ça c'est clair. Et c'est important ce poste d'ouvreur, on ne va pas le rappeler.
Ouais,
donc c'est aussi une des explications que l'ASM ne joue pas bien son rugby non plus aujourd'hui. Quoi.
Je vais être un peu facétieux, enfin, je ne sais pas si c'est le terme, mais je ne voudrais pas... blessé qui que ce soit, mais quand on a dit dans ce podcast notamment et quand on a écrit dans les colonnes du journal qu'il était à 83% Anthony Bello, tout allait bien.
Oui,
bon. Et réussite au but, oui, c'est alors, plus du tout le cas là.
Non, c'est peut-être un signe parce que sa réussite au pied est peut-être le baromètre de son état général et de ses performances, de ses prestations.
Et là, il a encore raté une pénalité face au poteau.
Il était à 50%, mais au-delà de cette réussite au pied, oui, c'est que dans le jeu, il n'a pas été performant non plus. Hein.
Ouais, c'est pas l'Anthony Bello qu'on avait connu au mois de janvier.
Janvier-février,
juste avant sa blessure, ouais, où il était vraiment performant. Et le jeu des lignes arrières de l'ASM, l'animation offensive, ça en ressentait vraiment. C'est un mec qui prenait la ligne, son jeu au pied était plutôt correct, dans l'occupation et dans l'animation. Non, il avait vraiment franchi un cap, et puis bon, sa blessure a retardé les choses. Et c'est vrai qu'il n'a pas retrouvé ce niveau-là.
Non.
C'est regrettable parce que les conditions de jeu étaient plutôt propres pour les arrières les phases de jeu au sol ont largement été dominées par les avants clairement.
Alors justement, merci Vincent, ça fait une parfaite transition. Je voulais qu'on parle de ce qui avait fonctionné, ce qui a très bien fonctionné dans ce match quand même, c'est les lignes avant.
Ah bah oui, les avants ont fait pendant 60 minutes, les avants ont été dominateurs, hein. C'était épais en face hein, quand même. C'était une équipe sud-africaine dans tout ce qu'il y a de sud-africain quoi. C'est du gros combat, ouais, du gros combat au sol, une équipe assez dense en conquête et dans les zones obscures, et les Clermontois étaient plutôt dominants.
Et c'est vrai qu'on les a vus faire bouger les Cheetahs de ce point de vue-là.
À l'image d'un Fischer qui a vraiment perturbé cette équipe dans le jeu au sol, ouais.
Je mettrai juste un petit bémol, c'est qu'après le premier essai Clermontois, ils ont quand même un peu subi les avancées des Sudaf, hein, qui n'ont pas du tout été réalistes, qui ont commis aussi des maladresses.
Beaucoup, ouais.
Mais au début, ça avait du mal à rivaliser un petit peu dans les zones de collision, dans les affrontements, mais au bout de la 20e minute, l'ASM a commencé à prendre le dessus, et puis bon, à dominer le sol, et puis ces deux essais en fin de première mi-temps leur font un bien fou, quoi. Mais globalement, ils ont fait un bon match devant, oui, ça c'est clair.
Allez, on va tourner la page du match face aux Cheetahs et on va entrer de plein pied dans la prochaine rencontre. Ce sera donc face à l'Ulster, parce que si on veut savoir si Clermont va s'imposer en Challenge Cup, il va bien falloir que Clermont s'impose déjà face à l'Ulster. Et donc,
vous allez me répondre. Déjà.
Exactement. Donc si vous me répondez que face à l'Ulster, ça va être trop compliqué, je vais vous dire qu'ils vont pas s'imposer en Challenge Cup. Cette équipe de l'Ulster, elle a joué donc face à Montpellier, c'était ce dimanche. Victoire des joueurs irlandais. Elle vous a fait quelle impression ? Toi, Arnaud, tu disais pas terrible.
Pas terrible, c'est le carton rouge de William C. qui a tout changé dans cette rencontre.
Effectivement,
Paul William C. 17 à 7.
Encore
lui.
Et puis, alors, toujours sur le même type d'action, en fait, hein, c'est-à-dire ouais. Un plaquage, tête, il arrive ouais. Tête contre tête.
C'est même pas un plaquage, là, c'est un tête-tête. Hein, c'est,
il maîtrise pas du tout son
Il arrête pas sa course ouais. Et il percute le joueur irlandais tête-tête.
C'est dangereux pour le joueur irlandais, c'est dangereux pour lui-même d'ailleurs.
Ah oui, il est resté au sol le moment d'ailleurs. Ah,
ouais. Il y avait 17 à 7 pour Montpellier à la mi-temps, il y a 40-17 à la fin du match. D'autant plus que Montpellier a pris ensuite, un peu après l'heure de jeu, deux cartons jaunes consécutifs. Ils sont retrouvés à 12 contre 15.
Ouais,
donc,
À 11, ça faisait du foot quoi.
Voilà,
enfin, 12, c'est compliqué quand même. Ouais, même s'ils ont concédé qu'un essai à ce moment-là, parce que les Irlandais, bon, c'est pas non plus des monstres de rugby spectacle et de réalisme. Enfin, je les ai pas trouvés très efficaces.
Il manquait deux ailiers quand même. Bon, je veux dire que ça n'a pas tout expliqué. Il manquait deux
ailiers. Oui, non, mais même. Enfin, il manquait quand même la deuxième ligne titulaire, hein, William ouais. C. et Vérag, qui étaient ouais. quand il a pris son jaune. Donc, bon, c'était un peu compliqué quand même dans le combat. D'ailleurs, ils ont marqué deux essais sur des portées, sur des.
Parce que devant, c'est solide l'Ulster. Hein.
Il y a par contre, c'est solide.
Comme Kitchoff et
oui, c'est quand
champion
même...
du monde sud-africain.
C'est quand même solide.
Ian Anderson.
On les a sentis en tout cas très sereins parce que quand Williams est sorti, ils ont eu une série de pénalités derrière et ils ont pris la mêlée tout le temps. Quoi, en fait.
Ouais, et puis c'est une équipe qui, à mon avis, comme beaucoup d'équipes britanniques, qui ne doute pas. C'est-à-dire que même à. C'était 14-0 au début. Mm. C'est des équipes qui ne doutent pas. Hein. Il peut y avoir 20-0. Ils continuent, ils ne lâchent rien. Et ils usent l'adversaire et ils finissent par ou pas te faire craquer ou te pousser à la faute. Et voilà, ils les ont poussés à la faute. Alors qu'il faut quand même souligner une chose quand même assez particulière, c'est que Montpellier a commis zéro faute en première mi-temps. Ouais. C'est assez exceptionnel. Ou peut-être une, je crois, mais je crois qu'à la 35e, ils avaient commis aucune faute. C'était zéro pénalité. Mais par contre, alors, en deuxième mi-temps, c'est le balancier s'est inversé. Hein.
Cette équipe de l'Ulster, elle est allée jouer à Montpellier dans un contexte particulier. On va dire que les tribunes n'étaient pas très garnies. C'est pas la folie
moins qu'on puisse dire.
Du côté de Montpellier. Elle va arriver dans un autre contexte, clairement. Ça, à n'en pas douter. Oui. Parce que ce samedi, déjà, même si le stade Marcel Michelin n'était pas plein, il y avait déjà une grosse ambiance. Ça sentait un peu la Coupe d'Europe, quand même.
Oui, il y avait 14 000, un peu moins de 14 000 spectateurs. Ouais, c'est déjà beaucoup plus que ce qu'on a eu cet après-midi au GGL Stadium, ça c'est clair. Et au samedi, si normalement le match devrait être samedi, ou sera samedi.
13h30, hein, ouais. Ça risque d'être le même horaire. Ouais. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, même des températures qui ne sont pas éloignées de celles qu'il y a eu ce week-end.
Donc tu vois Greg, ce sera un beau samedi, carte finale, je pense qu'il y aura bien plus de 14 000 spectateurs samedi. Ouais.
Ouais.
Les Irlandais peuvent être surpris par la chaleur.
Ouais.
C'est pas trop à Belfast. C'est pas le temps de Belfast.
Clairement, l'a été visiblement.
Ouais, parce qu'ils ont été impactés par la chaleur. C'est ce que disait
l'horaire du match aussi un peu tôt.
Oui, Christophe Furios disait l'échauffement, ils étaient morts déjà les joueurs.
Ah, ils étaient cuits. Ouais.
Ce qui est pas bon à l'échauffement, hein, parce que c'est un match à faire derrière.
Première chaleur font toujours du mal, c'est vrai.
Alors les Cheetahs, eux, avaient l'habitude de la chaleur. En revanche, effectivement, les Irlandais. Bon, les Irlandais ont joué à Montpellier ce dimanche, ils faisaient chaud à Montpellier et lourd aussi. Hein. C'est pas...
oui,
ça ne les a pas empêchés de s'imposer. Ouais. Cette équipe de Clermont-Arnaud, donc, elle pourrait rencontrer qui sur sa route?
Eh bien, Édimbourg, Sharks, Zèbres, Sharks ou les Zèbres. Puis l'autre côté du tableau, c'est Gloucester, Osprey, Trévis, Pau ou le Connacht, en fonction des résultats.
Ouais, alors ça donne quoi concrètement
moi, il n'y a pas d'équipe.
Parle bien dans le micro.
Moi, il n'y a pas d'équipe qui me font trembler énormément. Gloucester, on a vu dans la phase de poule que c'était une équipe qui était solide, mais c'était l'ASM les a joués chez eux. Je crois que les Zèbres, c'est pas mal du tout non plus, mais bon, sur un match, si la SM est sérieuse sur un match, je pense qu'il peut s'imposer. Après, c'est pas Édimbourg, on les a vus ici, la SM les a dominés, ça m'a pas. C'est pas une équipe qui m'a bouleversé. Si on regarde le tableau, c'est pas. Il y a une possibilité pour la SM. Si la SM est sérieuse, il y a vraiment une possibilité de faire un joli parcours et pourquoi pas d'aller au bout dans cette compétition. Enfin, à mon humble avis.
C'est la gomme tout un tas de lacunes et si elle ne souffre pas trop d'une infirmerie trop garnie.
Les Sharks, c'est pas un vrai gros concurrent quand même?
Les Sharks, si la SM joue en demi-finale, ne les jouera pas en Afrique du Sud déjà. Les jouera visiblement, je crois, aux Pays-Bas, hein, il me semble que c'est ça.
Ça peut être ça, ou dans les îles britanniques, on ne sait pas encore, mais oui, ça peut être donc, une demi un peu exotique, en effet.
Ouais, ouais. Tu prends une équipe sud-africaine en demi-finale qui ne joue pas en Afrique du Sud. Enfin, voilà, ça change quand même un peu la donne.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc, moi, je n'ai pas de... Il n'y a pas un adversaire qui me fait trembler, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure.
Et on sent quand même dans l'esprit, enfin dans l'état d'esprit des Clermontois, une réelle volonté d'aller au bout de cette épreuve. Quoi. On sent que malgré leurs difficultés en top 14, on sent qu'ils ne lâcheront rien et il n'y aura pas de choix de fait entre les deux tableaux. Quoi.
On ne va pas délaisser la Challenge Cup pour le top 14. Combien même
a priori,
ça
non.
Commencerait à sentir le danger en top 14?
Je pense pas, non. Je pense pas qu'il soit dans cet état d'esprit, ni le staff, ni les joueurs.
Ouais, moi non plus.
C'est la route la plus courte, en tout cas, on en a déjà parlé la semaine dernière pour la Champions Cup.
Tout à fait. Maintenant, il reste 3 matchs. Hein. 3 ouais. Victoires.
3 victoires pour être européen en Champions Cup la saison prochaine, en effet.
Clermont s'est déjà imposé en Challenge Cup ou bouclier européen, enfin, ce que vous voulez. Tu peux rappeler les années
99, 2007, 2019.
2019, ok. On se rappelle qu'en 2007, ça avait été le début d'une histoire. Ouais. L'équipe était, je sais pas, elle était un peu en reconstruction comme cette année, un peu mieux armée certainement.
Oui.
Mais en tout cas, ça avait été le début de quelque chose. Quoi.
C'était pas vraiment une reconstruction parce qu'il y avait l'ossature de cette équipe-là. Était là depuis.
Pardon, en fait, Christophe, c'est pas l'équipe qui était en construction, c'est plutôt Verne Cotter qui l'a remodelé.
C'est le club qui était en reconstruction. Après des années difficiles. Donc, c'était le début de l'ère Cotter, c'était sa première saison. Il est passé à 3 minutes près d'un doublé historique, qui aurait été le challenge à l'époque, challenge européen et le top 14.
Ouais.
Donc, oui, c'est une compétition qui a plutôt souri parce que Clermont a toujours joué le jeu à fond. Ce qui n'a pas toujours été le cas de toutes les équipes, et notamment françaises.
Ouais, ouais.
Et parce que Clermont pouvait se le permettre. Pas forcément
dans. Tout à fait. Dans ces années-là, oui, en tout cas, ils pouvaient.
Oui. Sur deux tableaux.
Ils ont perdu une seule finale, je crois, c'était en 2004. C'était à Reading contre les Harlequins, dans les arrêts de jeu. On n'y reviendra pas parce que c'était des conditions terribles. C'était une fin de match un peu comme on peut en voir cette année, ou depuis quelques temps à l'ASM, alors qu'ils étaient en tête à. Il n'y avait pas de chrono à l'époque, mais bon, c'était une finale perdue.
Il y a une faute de mémoire.
Ouais. Oui, non, on ne dira pas qui.
Ok. donc, les Clermontois, juste pour terminer sur la Challenge Cup, ça peut être quelque chose d'intéressant quand même de s'imposer. Ah. Outre le fait de la qualification de Champions Cup qui est évident, ça
mais
peut
totalement.
Créer un petit engouement quand même.
Demandez à n'importe quel supporter de la Yellow Army, ça ferait un déplacement en demi-finale. Si ça gagne en demi-finale, une finale au Tottenham Stadium à Londres, il n'y a pas un supporter Clermontois qui te dira non, ça. C'est nul, j'ai pas envie que l'ASM joue à fond cette compétition. Non, c'est une aventure.
Il y a quelques esprits chagrins qui surnomment cette compétition la Coupe Mickey.
La Coupe aux petites oreilles.
On en connaît, mais bon, non, là, tout est bon à prendre. Un titre, un trophée. et puis ne serait-ce que la confiance que ça apporterait, quoi, de gagner quelque chose. Ça, puis ça crée une histoire. Comme dit Rios, il faut que cette équipe elle s'embarque elle-même, qu'elle aille vers des aventures, gagner un challenge européen. Une Challenge Cup, voilà quoi. C'est évidemment que c'est pas la Champions Cup, c'est pas le top 14, mais ça peut créer un engouement, quelque chose à l'intérieur même de cette équipe.
Et puis ça peut remettre l'équipe au, quand bien même c'est pas la Champions, ça remet l'équipe au niveau continental, en tout cas un coup de projecteur.
Et puis surtout, c'est ce que j'ai écrit la semaine dernière, c'est que, la semaine dernière, c'est que ça, le fait d'être européen à nouveau, après 2 ans, ça remet un coup de projecteur sur le club et ça le remet un petit peu dans l'attractivité en termes de recrutement et tout, quoi. Et on sait qu'ils ont loupé des joueurs parce qu'ils ne faisaient pas la Champions Cup. Donc là, on redevient compétitif aussi sur le marché des transferts.
Puis ça amènera. C'est les plus grosses équipes qui viendront au Michelin. La billetterie s'y retrouvera aussi.
Déjà, oui.
Et puis l'engouement autour du club. Hein, ouais.
C'est que facile d'attirer. C'est tout bénef. Hein, tout ouais. Bénef. À tous les niveaux.
Donc il faut jouer le coup à fond.
Tout à fait.
Et ce sera donc ce samedi, vraisemblablement, face à l'Ulster, ça c'est certain. Merci messieurs, on va tourner la page de cette question. Donc l'ASM va-t-elle gagner la Champions Cup? Oui. Et le vaut-il? Oui, voilà.
Challenge Cup.
Pardon, j'ai dit quoi?
Vous avez dit Champions Cup.
Quel lapsus?
Je me suis peut-être un peu emballé. La Challenge Cup, merci Vincent. Donc, maintenant on va passer au top flop s'il vous plaît. Et je vais demander à chacun, avez-vous un top, avez-vous un flop? Arnaud, as-tu un top ou un flop?
J'ai un flop. C'est le match des espoirs hier qui s'est disputé à quelques heures après le coup de sifflet final quelques heures après le coup de final.
Coup de sifflet final qui était
SM Cheetahs. Bon, bref, le match est joué à 18h et c'est l'incroyable imbroglio qui s'est déroulé à la fin de match avec un essai inscrit par les Clermontois, par les hommes d'Elvis Vermeulen. Transformation à suivre en face des poteaux. Tout le monde voit dans le stade la transformation passer juste au-dessus de la barre. L'arbitre central aussi, sauf les deux arbitres de touche qui disent à l'arbitre central « Non, elle ne passe pas ». Donc l'arbitre central revient sur sa décision. 5 points, pas de 2 points de transformation. Et finalement, ça a une conséquence puisque La Rochelle inscrit un essai derrière. Et finalement, l'ASM, au lieu de gagner 38-36, match nul 36-36 contre une équipe qui n'avait pas... Qui n'avait pas connu la défaite de la saison, c'était La Rochelle. Hein. Donc voilà, il y a eu beaucoup de colère. Hein,
et qui l'a toujours pas connu donc.
Match nul a été entériné par les arbitres. L'arbitre aurait reconnu son erreur, mais n'a pas voulu changer le score à la fin. Donc 36-36. Et c'était assez incroyable comme histoire. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Et donc il y avait beaucoup de colère sur le banc clermontois, beaucoup d'injustice, mais bon.
Il y a voilà. Des images, non, ou pas?
Non.
Ah, juste une question.
Dommage qu'on n'ait pas filmé.
Arnaud, une question à propos de ça. Est-ce que tu peux nous dire à peu près quelle était la chambrée?
Ouais, il y avait bien 1000 spectateurs, je dirais.
Qui étaient restés donc
depuis
le début de la première. C'était une super après-midi rugby.
Ouais, c'est clair.
Super après-midi rugby à l'ASM.
Il y avait pas mal d'ambiance. Les supporters, je crois que c'est les mordus Montferrandais qui étaient restés aussi. On entendait les tambours pour le match des espoirs, donc c'était sympa. Je pense que ça fait plaisir à cette jeune génération de joueurs de voir autant de supporters, ce qui est pas forcément tout le temps l'habitude au Gravanche.
Bah, c'est un top ou un flop?
Un top.
Ouais.
Un top concernant un joueur de l'ASM, première ligne, Gheorghi Beria, que je trouve très très intéressant depuis plusieurs semaines. Il est au-delà de bien manœuvrer en mêlée, je trouve vachement présent dans le jeu courant, et je pense que l'ASM va commencer à regretter son futur départ en direction de l'USAP, lui qui a en plus de ça un statut GIF.
Alors moi j'ai un regret, c'est de ne pas avoir dit que je prenais ce top là parce que c'était aussi le mien. Donc, mais c'est ma faute, mais culpa. Donc je vais en prendre un autre.
Et c'est vrai, c'est un bon point de ma part. Hein.
Ouais, confirme ce très bon top de mon ami Vincent.
Alors pardon, mais c'est la première fois que je vois ça. Le gars transforme un top en flop en expliquant pourquoi c'est nul que le club ne le garde pas. Quoi.
Non, c'est bien pour le club aujourd'hui, enfin qu'il soit présent aujourd'hui à l'ASM.
Je confirme qu'en effet, l'ASM pourrait le regretter parce que Bah déjà, bon, c'était un garçon qui n'était pas à ce niveau-là quand s'est déroulé un peu.
Les tractations, de reconduction de contrat, de prolongation.
On s'est discuté son avenir. Quoi. C'est dommage, parce que vraiment, je suis d'accord avec toi, il fait une super fin, partie de saison.
Christophe, est-ce que tu as un top ou un flop?
À moi, mon top, c'est Alexandre Fischer, son retour.
Et que je voulais prendre, mais que j'ai changé.
Oui, mais tout le monde fait ce qu'il veut maintenant. Il va falloir écrire... formaliser un peu nos top et flop. Fischer, oui, parce que franchement, après 13 mois sans jouer, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Bon, physiquement, il a été dans le dur à un moment de ce match, je parle. Mais bon, il a fait du bien fou parce qu'il apporte beaucoup, on en a parlé, dans le jeu au sol. Donc maintenant, croisons les doigts qu'il puisse enchaîner. Et bravo à lui pour ce retour parce qu'il a vraiment été impactant dans ce secteur particulier de la défense et dans les plaquages. Dans les grattages.
Et c'est un profil qui ne possède pas forcément l'effectif clermontois, notamment en troisième ligne. Un mec qui arrive à être aussi pénible au sol, c'est vrai que ça peut faire un bien énorme, et on l'a vu d'ailleurs samedi face au Cheetahs.
Merci messieurs, en espérant que Beria et Fischer soient à leur niveau ce samedi. Ce sera face à l'Ulster, donc pour le quart de finale de la Challenge Cup. Exactement, Vincent. Avec la possibilité pour les Clermontois de se qualifier pour les demi-finales de cette compétition. On va suivre bien sûr toute l'actu de Clermont. Je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
Ciao.